Salut, ouais. Oui, ouais, bonsoir les gars, c'est l'émission du Foc, 20 minutes. Merci à la technique, comme ça je suis pas obligé de faire attention en fait.
Le Foc à ne pas confondre avec un pingouin.
Merci. Oui. Je crois que tu vas sortir. C'est l'invité. Ça ne va pas du tout. Ça va Serge, tu reviens en forme.
Oui, en tant que troll du Foc.
Ah, voilà, bonsoir, parfait Pierre. Le micro bien.
Bonsoir Pierre, tu vas bien?
Salut, ça va.
Bonsoir. On est le Foc, on est le vendredi, non?
On est le jeudi.
On est mercredi. On est mercredi, ça n'arrête pas de descendre. Mercredi.
On arrive bon, à 35 heures. Alors, on va quand même commencer par parler de nous.
Ou de toi.
Combien d'émissions? De nous, en général. Il y a eu combien d'émissions du Foc depuis le début?
Ah, c'est un quiz. 100
80 46 émissions.
Quand ah bah, on était
La première, c'était quand?
Ah, mais comme on boit, ça.
Ah, c'était en juin.
Ouais. C'était en juin. Le 26 juin, quelle année?
2000.
Ouais, t'y es presque.
12.
2014. Et c'était quoi le thème de la première émission?
Les vignettes Panini.
Ça, c'est facile.
Et alors, quand a eu lieu la 35e émission? Parce que c'est quand même les 35 ans de Panique. La 35e émission, je veux la date précise.
Tu comptes, sur tes doigts.
Bah, c'était en...
Donc, genre 3 ans après, genre un peu en novembre 2017.
Ah, octobre 2017, il est fort, le frère.
Ah, c'était quoi le sujet?
Et le thème? Bah, je sais plus.
Un truc bon, sur le foot.
Au niveau des podcasts, parce qu'il y a plein de gens qui me disent c'est quoi l'audience?
Bah, ah,
l'audience
beaucoup.
C'est difficilement mesurable.
Mais par belle contre, audience.
Podcasts,
hein.
Ça, j'ai les informations. Alors, quelle est l'émission qui a fait le plus de podcasts? Faut vous en rappeler, c'est une de mes préférées.
L'émission sur la viande.
Exactement.
Ah ouais.
Et ça, elle a eu lieu quand?
Oh bah elle a eu lieu en 2016.
Le 16 avril 2015, nombre de podcasts. Vous avez une idée du nombre de podcasts?
Non, mais c'est aussi l'émission où on a eu le plus d'appels d'auditeurs.
Eh oui, on en a eu un.
Oui, un.
Christophe.
Exactement.
Christophe, comment il s'appelle?
Christophe.
Et alors, il était pour ou contre
la viande?
Alors, ce qu'il y a, c'est que Bruno avait fait un billet sur la viande qui était. Il parlait du bleu, blanc, belge et l'auditeur a dit non, c'est blanc, bleu, belge.
Ouais. Et voilà.
Non, mais ça, c'est
le billet. Mais il faut être précis quand même.
Et oui, c'est dans ça. Éducation permanente, ça a toujours été notre créneau. Credo.
Alors, quels sont les nombres d'émissions où il y a eu zéro podcast?
Zéro auditeur?
Zéro podcast. J'ai pas dit auditeur.
Ah, genre, on a oublié.
Alors, genre, non, ça n'a pas été podcasté du tout. Les gens n'avaient rien à foutre.
Ah ouais,
il y a trois émissions, il y a zéro podcast.
Ouais, mais c'est un problème d'ordinateur.
Quand je viens pas,
et il y a eu 5 émissions avec un podcast, en sachant qu'à ce moment-là, c'est moi qui les downloadais. Ouais, ouais, alors j'allais les vérifier.
Alors, dans l'ordre, le standard.
Mais ta gueule, quoi.
L'islam. Expliquer aux enfants.
Déjà, explique aux adultes.
On parle pas trop de religion dans cette émission.
Alors, les mots les plus prononcés. J'ai écouté toutes les émissions.
Corner, non, hors jeu.
J'ai écouté.
Ah, l'émission la plus homophobe.
À toutes.
Non,
ah non, alors les mots les plus prononcés par Pierre, il y en a 3.
Aliénation.
Lyon.
Ah, j'ai oublié, ça fait 4. Donc, alors, le premier, c'est nature.
OL.
Le deuxième, c'est culture. Et le troisième, c'est sociologue.
Oui, peut-être. Ça peut arriver.
Alors, le mot le plus prononcé par Fred?
Bière.
2 mots. Enfin, voilà.
Ah ouais.
Ah, alors, ça. Ils sont pas là, mais les deux mots les plus prononcés par Mirko.
Juventus, qui a remporté la.
Tout à fait. Et le joueur emblématique?
Le joueur emblématique de la Juve à travers l'histoire, c'est Buffon.
Bah, évidemment, c'est Buffon. alors, le mot, la phrase la plus répétée par Chris, dite par Chris. Je ne serai malheureusement pas là.
Ah, mais Pierre a souvent été absent ces derniers temps.
Les deux mots les plus prononcés par Lazare, même si c'est arrêté fin 2016.
Il y a eu TTIP, à beaucoup.
Exactement. Et le deuxième.
Je tiens à dire une chose.
Alors, c'est oui, c'était la phrase.
Ça fait 30 ans.
L'autre
40,
mot, c'était Franken.
Oui.
Franken. Et quel est le mot le plus prononcé par Antoine?
Oh, bah, histoire.
Non, Lazare.
Lazare, tais-toi.
Oui, il y avait aussi tais-toi. Bon, alors, plus sérieusement, maintenant, quand même, un petit chapitre politique et tout, parce que le football, c'est jamais qu'un prétexte pour parler de politique, parce qu'on parle quasi jamais de football, en fait.
Ou l'inverse.
Puisque beau but est une passe.
C'est de qui, ça?
De Michier, bien sûr.
C'est Michier à Jean-Claude. Alors, en 1983, mais Pierre, tu avais raison de le préciser, c'était plutôt en mars. Mais qu'est-ce qui s'est passé politiquement en France dans les années 83? Enfin, dans l'année 83?
Mitterrand, non?
C'est toujours Mitterrand, mais c'est un peu le virage où on abandonne définitivement une politique de gauche en France.
Qui s'appelle rigueur.
C'est la friction avec Rocard et tout ça, déjà?
Non, c'est avant. En fait, de 81 à 81, donc Mitterrand gagne les élections en 81. Mm-hmm. Il fait une alliance avec les communistes. C'était qui?
Marché.
Marché, évidemment. Donc il y a des communistes qui entrent au gouvernement, ce qui fait qu'il y a des Français qui foutent le camp en Angleterre.
Et des chars sur les Champs-Élysées. Rappelons-le.
Enfin,
ouais, ces images terrifiantes.
Comme à chaque fête nationale.
Et cette année, c'était en mars.
Bon. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, donc on est en mars 83, la France va pas bien économiquement, en fait, toute l'Europe va mal. Et donc, de 80 à 83, on a vraiment des dépenses, une politique de dépenses publiques en hausse, qui se révèle être un échec que certains diront partiel, mais en tout cas, c'est considéré comme un échec. Donc, en fait, ce qu'on a retenu dans l'histoire, c'est qu'à partir de 83, on effectue le tournant de la rigueur, donc il y a une baisse des dépenses publiques, un arrimage, comme on dit, du franc français au marque, qui va déboucher sur une baisse des salaires, une inflation.
La belle époque de toutes ces monnaies.
Arrête. En fait, il faut savoir...
Ça te fait rêver, hein.
Alors, franchement...
Ah, Gauthier, ça te fait rêver, toutes ces monnaies, là, cette dérégulation, c'est taux de change, en veux-tu, en voilà.
Je vais venir, Fred, arrête. Et donc, en fait, il y a eu deux camps qui étaient constitués autour de Mitterrand. Il y en avait qui étaient effectivement, genre Delors, Attali, Rocard et tous les énarques qui voulaient cette politique de la rigueur.
Et Fabius, t'oublies pas, c'est lui qui l'amène quand même.
Ah oui, c'est vrai que oui, mais toi, tu connais, hein. Un petit peu. Mais il y avait un autre camp constitué notamment par Chevènement et Jean Ribou, qui était un patron français, le patron de la société Schlumberger.
Ah, il était
je me demande si tu confonds pas avec Franck Ribou.
Ah, je confonds complètement avec Franck Ribou.
Non, c'est comment son prénom?
Qui dit Jean Ribou, si la France suit Delors et tous les autres, elle va perdre sa chance ultime de se moderniser et elle disparaîtra de la scène des grands en se fondant dans un magma libéral européen.
D'accord, mais moi je croyais que vous m'aviez invité pour qu'on parle de Bruxelles
de l'Union Saint-Gilles, quoi.
Ouais. En 83.
Et en 83, qu'est-ce qui se passe à Bruxelles?
À Bruxelles, en 83, comment ça se passe dans le centre de Bruxelles?
Oh ouais, c'est un chancre.
Ouais, c'est un chancre.
C'est un chancre, c'est un chancre, comment on dit, un chancre urbain.
Un chancre urbain. Et la Saint-Géry, c'est à l'abandon. La galerie Agora, c'est rempli de punk.
Ah, bon, ça va
alors.
Les
skins qui traînent, le Offside de l'époque aussi.
Ah, belle époque.
Ouais, tu vois, un peu les Hools d'Anderlecht, tout ça.
T'étais dedans, toi? T'étais dans quel camp, tu peux nous le dire?
Par omission. Non, non, moi je suis un observateur.
T'avais quel âge à ce moment-là, toi?
13 ans.
Observation participante. 13
ans.
Ah ouais.
J'avais pas intérêt à être au side, je pesais 62 kilos.
Bah, la politique de rénovation du centre de Bruxelles, elle a commencé dans les années 90, non?
Elle a commencé dans les années 90. La galerie Agora, il y avait le Dolomol, c'était des magasins où on vendait des fringues New Wave de l'époque.
J'adore.
C'est déjà un peu de l'ancienne Wave, du coup.
Anderlecht, c'était au top en Europe. Avec des joueurs comme Ludo Cook, Frank, Frank Iverkotter.
On parle d'une époque.
Ouais, mais Frank Iverkotter.
Je pense que c'est plus c'était sur Radio Panique, donc les gens.
Cette époque-là, tu sais, qu'on a fait des matchs cultes contre West Ham, Tottenham,
Nottingham Forest. C'est un an plus tard, je pense.
Ouais, voilà.
À ce moment-là, non, on gagne la Coupe de l'UEFA contre quelle équipe? Anderlecht gagne contre
Benfica.
Exactement, match aller-retour.
Ouais. Donc Paul Van Imst était devenu coach aussi, hein,
je pense qu'il est devenu coach après. À ce moment-là, je me demande si c'était pas Gotthals.
Non, évidemment, c'est Lito Standard. Juste après, c'est 84, c'est l'affaire Waterskey. Hein.
Voilà, mais
Gotthals qui on fait verser la prime de match par Eric Guéret à ses potes limbourgeois.
Ah, monsieur connaît l'histoire.
Pied,
hein.
Pour qu'il lève le pied.
Et justement, on en avait
parlé. On avait la finale contre Barcelone.
À fond dans l'actualité.
Donc ça, là, on sent le prisme de Radio Panique au milieu de tout ça. Ah ouais.
C'est puissance d'analyse qui arrive à allier le passé et les corruptions actuelles, quoi, c'est.
Et le Dolomol était en activité, quoi, rue des Éperonniers.
C'était quoi le Dolomol exactement?
Bah, c'est un café à nard qui a été repris plus tard par Yann Bucois, mais qui est aujourd'hui fermé. Mais à l'époque, c'était vraiment un café rassemblement d'anarcho-libertaires, un peu punk. Il y avait deux, trois autres cafés comme ça dans le coin.
Il y avait des cafés skin, parce que tu dis qu'il y avait une présence de skin et de punk, mais il y avait des cafés skin.
Bah, je peux pas te dire vraiment, j'en ai vu traîner, mais j'en sais pas plus, j'avoue. Mais... parce qu'il y a aussi les Redskins et les Mods qui traînaient pas mal.
Ah, donc, et Pierre
savoir
aussi.
Faire ouais, un peu
y
la
y
différence.
Il y avait une perméabilité entre tous ces mouvements qui n'étaient pas du tout.
Et par contre, ce que tu avais, c'était ces cafés heavy metal, mais bien antérieurs. Je te parle du heavy metal issu du prolétariat, avec son truc Iron Maiden et ses badges et le début de Saxon, Motley Crue, Venom et compagnie, quoi, ce qui allait donner le sludge et tout. Et donc, il y avait un café à 10 mètres de la Grand Place, qui était un repère des métalleux de l'époque, ce qui semble impensable aujourd'hui au milieu des pralines en chocolat, quoi.
Et toi, Pierre, tu disais le milieu skin, tu connais? Enfin, je veux dire, pour l'avoir vu en face.
Pas en Belgique, ouais, mais en France, ouais. En France, bah, il y avait... en 83, non, pas encore, mais quelques années plus tard, quand j'étais en âge d'être au scalp, section carrément Antilope Pen, c'était
ah, bien. Mais tu souris, t'aimais bien.
J'aimais bien, j'étais avec mes docs Bordeaux et mon crâne rasé, et je me
coltinais. Gauchiste.
Je me coltinais les gars du GUD en face, le groupement Union Défense, le syndicat étudiant à l'extrême droite. Donc c'était un vrai folklore, c'était sympathique comme tout.
Ouais, mais c'est-à-dire qu'il y avait une perméabilité,
ben, parce que dans les concerts, on était aux mêmes endroits, quoi.
Et ça se tabassait pas trop.
Pas forcément, en tout cas.
Voilà. Et ça couchait avec l'autre camp ou quoi? Ça arrivait?
Oh, c'est arrivé, c'est
arrivé. Ah, Pierre, tu peux nous le dire maintenant, il y a prescription. Hein. C'était il y a 35
non.
ans.
En ce qui me concerne, non.
Est-ce que t'aurais voulu?
Ouais, ça a pu arriver. Des birdies, tu vois, c'était les filles avec les crânes rasés, vachement chouettes, quoi, des fois. Mais non.
C'était à Paris?
C'était à Lyon.
C'était à Lyon.
Ouais. Et le GUD occupait beaucoup les rues, et donc on faisait en sorte de les occuper aussi un peu. C'était bien, c'était rigolo.
Ouais, mais c'est vrai que t'en parles avec le sourire. C'était il y a 35 ans, bordel de merde.
Ouais, c'est, non, là, moi, je te parle d'un truc, c'était il y a 30 plutôt que 35. Mais bon,
ouais,
mais
on est super jeunes dans cette émission.
Après, bon, Scarbeck, à l'époque, était beaucoup moins gentrifié que ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a un retour d'une certaine grosse classe moyenne, quand même, et tout. Mais là, c'était carrément en 18-8 complet, quoi. Ouais. T'avais des bandes. Ça, c'est assez marrant de voir l'avenue Louis Bertrand aujourd'hui,
ouais,
qui est un peu. J'aime pas le mot bobo, pour moi, ça n'existe pas, mais qui est un peu la rue emblématique de ce renouveau, un peu d'une grosse classe moyenne Scarbeck qui est plutôt poussée vers l'écologie, tout ça, tu sais, magasin bio, petite épicerie fine,
le
bar de Gaspi, où c'est sympa, tu vas voir quelques films un peu cultivés et tout ça, mais on est un peu dans une espèce de gens, tu vois, un peu érudits, distingués, quoi, par rapport à la population qui était arrivée dans les années 80 et qui était là en train de squatter. Parce que toute cette avenue, c'était un repère à dealers, en fait. Et c'est plus du tout le cas aujourd'hui. T'allais acheter ton shit, là.
Mais c'est pas le même.
Mais aujourd'hui, tu vas où?
Saint-Gilles.
Oui, bon, il y a toujours le coin du côté de Setain et tout ça, qui est toujours un peu squattage, où t'as un peu de bise, où t'as un peu de bif, t'as les jeunes qui se rassemblent et tout. Mais dans Scarbeck, c'était beaucoup plus général dans les années 80. Et t'as. Il y avait des endroits où, quand t'avais 13-14 ans, tu fricotais pas trop, parce que tu pouvais, tu vois, être sujet à la prédation, quoi. Tu te dis, ah, hey, toi, vas-y, attends-moi ton fric, vas-y, tu vois, bagarre direct, comme toi, tu te laisses pas faire, t'es duo, boum, boum, bagarre, tac, tac. Puis hop, ils reviennent à 5, tac, tac, tu dois aller chercher des potes. Ouais, non, ça c'était.
T'as bien aimé cette époque-là?
Ça dépend des moments, mais des moments, ouais.
Bah, quand on gagnait, ouais.
Tu vois, voilà,
quand
quoi.
Quand on était 5, ça va.
Quand tu ramasses contre 12 paye et que tu rentres, tu sais, avec ta millet plein de sang, là et tout, non, là, tu t'as un peu.
Ah, t'avais encore ta veste, ça va?
Ouais, t'avais encore ta veste.
Et le premier match que t'as vu de l'Union Saint-Gilloise, c'était quand?
Mais moi, j'allais pas à l'Union, j'allais au Sporting.
C'est
l'Union, c'est pas. C'est, si tu veux, il y a pas mal de vieux d'Anderlecht, d'ailleurs. Qui ont fait pas mal de petites bêtises quand ils étaient ados dans les travées de la tribune.
Et pour un invité, parle beaucoup. Hein. Bah, c'est bien, c'est bien.
Qui aujourd'hui, bon, ben, vont à l'Union un peu parce qu'ils sont un peu devenus des papis gentils.
Un peu bobo,
quoi.
Toi, à l'Union,
ouais,
en fait.
C'est vrai que c'est un rendez-vous un peu. Ouais, gentrifié, pas bobo.
D'ailleurs, j'ai
gentrifié.
Vu un ancien d'Anderlecht.
Qui ça?
Qui a eu une grosse affaire. Je citerai pas son nom.
Ah si, ah non. Ah
ben, c'est pas un joueur, c'est un type, tu vois, il a fait vraiment un gros coup en matière de subversion, hooliganisme et tout, ou dans une affaire dans laquelle a été mêlé Camus. Vous vous rappelez de Camus?
Fabien?
Non, Camus qui a joué à Charleroi, qui
ouais.
a dû jouer au Standard, mais les joueurs ont protesté. Et les supporters surtout. Ils ont pas voulu qu'il l'engage à un moment où il était au top de sa forme. Je crois qu'il était, il a joué à Malines aussi et tout.
Ouais.
Et en fait, eux, ils ont attaqué un train, en fait, à la gare de Scarbeck.
Oh putain la vache.
Et donc le gars avait tiré l'alarme pour bloquer le train. Et là, ils ont chargé le train à coups de pierre, etc. Et
ah
tout.
La belle époque. Et,
ouais, là, alors c'est le début aussi des nouvelles lois hooligan après qu'ils ont testé d'ailleurs avec des grosses amendes administratives et tout. Et ça a été assez opérationnel, faut le dire, le côté judiciaire de la question.
Ça a pas marché. Si ça commençait en 83, 85, ça a un peu raté, quoi.
On attaque au portefeuille, tu sais, ça peut fonctionner.
Ouais, mais dire qu'une bonne répression, c'est la solution à tous les problèmes.
Ouais, mais en tenant ce cas-là, ça s'est un peu réglé. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as plus rien dans les stades, quoi.
Ah, mais les joueurs le regrettent d'ailleurs.
Propre aux années 80.
Non, mais t'as moins d'ambiance. T'as les joueurs professionnels, notamment en Angleterre, qui regrettent l'époque où effectivement t'avais les classes populaires dans les tribunes parce qu'il y avait beaucoup plus d'ambiance. Maintenant, effectivement, ça s'est gentrifié et on vient en famille et il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins d'ambiance.
Il y a eu le prix.
Bon, et pour en revenir au Parti Socialiste, c'était quoi le Parti Socialiste en 83?
Mais pourquoi on revient au Parti Socialiste?
On était toujours le Parti Socialiste. On ne pourrait pas parler du MR, c'est bleu, c'est bleu.
On parlait de Mitterrand, là, mais ici, c'était quoi? On avait quoi, les années Gaulle?
On avait commencé avec les années Gaulle, ouais. Et on a eu la dévaluation, oui, Fred, ça m'excite.
Mais c'était
Martens en 85, Martens Gaulle.
Martens Gaulle,
dans quel contexte, dans quel gouvernement naît Radio Panique? Sous quel gouvernement?
Ah, bonne question, ça.
Ça, c'est une bonne colle.
83, enfin, un Martens.
Moi, je pense que Martens Gaulle, c'est 84.
Ouais, Martens 2, là.
C'est après, c'est pas en 83, t'es encore PS, t'es social chrétien, je pense.
C'est déjà marqué,
ou alors t'as pas une union nationale avec le NV, l'NV, qu'est-ce que la Volksunie, la Volksunie qui est dedans.
Il y avait déjà
la et peut-être le Rassemblement wallon. Je pense que eux étaient dedans. Il y a eu un gouvernement d'union nationale, puis c'était peut-être en 80-82.
Et qu'est devenu le Rassemblement wallon?
Il s'est retrouvé dans le FDF, notamment à Bruxelles.
Ça m'a toujours intrigué. J'étais petit, je recevais leurs autocollants dans le Brabant wallon.
Ouais, mais il y a une partie qui est partie.
De ma famille.
Ah là là, il y a une partie qui s'est retrouvée dans FDF, l'ancien FDF, qui est l'actuel Défi, et l'autre partie.
Est-ce que ce serait aujourd'hui
un
parti qui serait classé identitaire en fait?
Ah non, parce que c'est des wallons, donc c'est des gentils, donc ça peut pas être identitaire. Bah quoi, j'ai une connerie, enfin je veux dire plus que d'habitude.
Non, mais c'est vrai, on peut définir identitaire.
Ouais.
Ah, si tu mets wallon dans le
est-ce qu'il
ton
serait
parti
traité de facho?
Ah, par certains, oui. À mon avis, par des gens de l'autre que.
Enfin, définir facho.
Non, mais enfin, mais vraiment, enfin,
politique.
Et enfin, quand il y avait la Volksunie, enfin, il y avait vraiment ces questions-là, enfin, parce que la Volksunie n'était pas un parti de droite, quoi. Était juste un parti.
Ouais, parfois, les trolls posent la vraie question. Hein,
en 83, c'était Martin V. Je viens d'avoir la réponse par SMS.
Donc, voilà, maintenant, on a une grosse facilité avec la NVA, qui est juste un parti d'extrême droite au pouvoir en Belgique.
Ah bon?
Mais ouais, c'est beaucoup plus facile pour faire nos discours un peu binaires.
On n'est pas du genre à faire des discours binaires.
Moi, je crois pas.
Avant c'était en 83, c'était plus difficile.
D'accord avec quoi? Moi, je regardais mon GSM, excuse-moi.
La NVA, c'est des gros faf, c'est ce qu'il est en train de nous dire.
Bah, aujourd'hui, tout est gros faf. Moi, je dirais pas que la NVA est gros faf, c'est difficile à dire. Si c'est des fachos, comme on en parlait justement en off, le fascisme, faut voir, c'est la fin. Il y a une volonté, c'est mis dans le programme politique, de la fin de la démocratie. Je ne vois aucun parti politique, en tout cas, qui a une certaine notoriété, qui a des élus, aucun parti politique qui a écrit dans son programme la fin de la démocratie telle qu'elle. Alors, ça, aucun.
Le fascisme décrit comme ça, évidemment, il n'y a aucun parti qui se prête au jeu des élections qui peut être fasciste. Mais à l'inverse, si le fascisme, c'est une idée, en particulier vis-à-vis de la tolérance à l'autre, à l'étranger, hein, l'autre,
tout à fait,
comme altérité, comme étranger, je dirais que le fascisme a gagné dans à peu près tous les partis politiques.
Ouais, alors dans tous les pays aussi, alors.
Ouais, complètement.
Ouais, moi je sais pas, je trouve la définition un peu trop facilement interprétable. Bah, c'est difficile de mesurer ça.
Ouais, mais il faut pouvoir interpréter un peu, parce que sinon tu te retrouves à dire que non, tout va bien, quoi.
Maintenant, la démocratie, c'est aussi la fixation des limites et de certaines limites. Donc, quand tu fixes une limite, peut-être que tu exclus certains autres, effectivement. Mais est-ce que c'est pour autant du fascisme?
Ah, mais parce qu'on parle de la démocratie telle qu'on nous la sert.
Tout à fait, tout à fait.
Et qui n'a pas grand-chose à voir avec le gouvernement du peuple par le peuple, qui a à voir avec un système partisan délétère et qui produit une oligarchie plus qu'une démocratie.
Ouais, je préférais quand même qu'on parle d'Anderlecht Saint-Gilles et du match de... Ouais, terminer, rappelons quand
même. On termine
même
avec ce score.
Que ça aurait pu être... Bah, c'était 0-3.
Historique peut-être.
On en a parlé. C'est vrai, Serge, tu l'as rappelé. 0-3.
Moi, j'ai une question vraiment à tous les spécialistes du foot de Radio Panique. Qui sera champion cette année?
Moi, standard. Union Saint-Gilles, ah merde. Union Saint-Gilloise.
En AB, ouais. En AA. Allez, hop.
Ouais, faites entrer les suivants, il n'y a pas de problème.
Personne ne se mouille.
Ben si, le standard, c'est du trace mouillé.
Je vais pas dire
que c'est RWDM, quoi. Enfin, s'il te plaît.
Je dis Bruges.
Le RFCL. Allez, tout va bien, c'est Fiesta Panique, là, tout bientôt, là. Et si on doit chanter de la musique avec la bouche.
On va chanter Ave Maria.
Ça.
Merci, les gars.
Du 24 octobre à 12h au 25 à 23h, 250 bénévoles vont se relayer pour un marathon incroyable. 35 heures radiophoniques pour 109 émissions.
Comment on va faire rentrer tout le monde?
Ça a l'air compliqué.
Mais c'est très clair.
Radio Panique.